Merci.
Rebonsoir. Jean-Gabriel Perriot n'est pas venu seul. Vous allez reconnaître quelques-uns des visages que vous venez de voir, et puis certains que vous n'avez pas vus, parce que il y a aussi au moins une technicienne.
Deux.
Voilà, qui ont pris le son. Et ben, je vais vous laisser les présenter, d'ailleurs, Jean-Gabriel.
Ben, je pense qu'ils vont se présenter eux-mêmes, mais en fait, donc vous les reconnaissez tous, sauf Claire, qui est là, qui était une des deux lycéennes qui était au son, la prise de son, et Alia, qui est une du binôme d'assistants réalisation, donc qui était avec moi sur l'organisation du tournage et le suivi des répétitions et tout ce type de choses. Voulez-vous présenter plus que ça ?
Oui.
Vous dites quoi ?
Vos prénoms.
Bah, Alia. Floricia.
Marine.
Julie.
C'est très fort. Jackson.
Claire.
Gaze.
Vous pouvez effectivement les applaudir. Alors pendant que le micro revient, Jean-Gabriel Perriot, vous avez dit quelques mots. Alors d'abord, je vous rappelle, pardon, les habitués en ont marre que je vous le dise, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, cette discussion est enregistrée et sera disponible très vite sur la web radio de France Culture, France Culture Conférence. Donc je vous demanderai simplement, parce que j'imagine que vous avez des tas de choses à dire sur ce film et de questions à poser ou d'avis à donner, d'attendre qu'on vous passe un micro, parce que sinon les personnes qui écouteront cette discussion pourront pas vous entendre. Voilà. Ceci dit, Jean-Gabriel Perriot, vous avez dit donc tout à l'heure dans quelles circonstances ce film a été fabriqué. Comment vous est venue l'idée de faire rejouer des extraits de ces films, alors que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais qui ne sont pas si connus que ça? Parfois, on en connaît un bout parce qu'on en prend des images dans les documentaires sur mai 68 et les années suivantes, mais ce sont des films qui existent en eux-mêmes, qui sont les films du cinéma militant, comme on l'avait appelé, tournés pour la plupart dans l'après-mai, sauf il y a deux fictions dedans. Il y a la Salamandre d'Alain Tanner et La Chinoise de Godard, qui est un film sur mai 68, mais tourné un an avant. Ça, c'est toujours la préscience de Godard. Alors comment vous est venue l'idée de réutiliser ces films et de les faire rejouer par des lycéens d'aujourd'hui ?
En fait, quand je suis arrivé au lycée, j'avais aucun début d'idée d'un film à venir. Enfin, j'avais une vague idée, mais qui a vite disparu. Mais j'avais deux hypothèses de travail. Enfin, en tout cas, une qui était une hypothèse, qui était celle d'un film qui travaillerait la parole. Je ne savais pas encore sous quelle forme, mais je voulais que ça travaille la parole. Et l'autre, c'était de partager avec eux une chose qui est fondamentale pour moi comme cinéaste à chaque fois que je fais un film, c'est faire un film sur quelque chose que je ne connais pas. Pour moi, faire un film, c'est un moyen de travailler, de se plonger comme ça dans un événement, dans quelque chose qui m'est encore inconnu ou alors qui est tellement vague que j'ai besoin de travailler pour essayer de préciser. Je voulais travailler ça avec eux. Et le début, en tout cas, de ce qui va devenir Nos Défaites, c'est quand je leur avais présenté, j'étais venu à un moment au lycée, et j'aurais présenté plusieurs types de films documentaires où la parole était centrale. Et parmi ces films arrivent, les films Medvedkin. À un moment, je fais une séance avec quelques films comme ça, post-68, et c'est dans la discussion qu'on a eue après, dans leur regard à eux, que quelque chose s'est joué, en fait. C'est-à-dire, il me semble, je parle de ce que j'ai ressenti, mais si vous voulez compléter ou infirmer, vous avez le droit.
Vous allez avoir un autre micro derrière vous qui va pouvoir, s'il est allumé, voilà. Vous répondez qui veut quand il veut.
Non,
bon, on va vous faire. Ça y est, il est là.
Et il y avait quelque chose qui s'est passé dans leurs yeux. Sur ces extraits-là, en tout cas sur une partie d'entre eux, et dans la manière dont on a discuté après, de ces films en particulier, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est qu'en même temps, ils exprimaient une espèce de, pas de fascination, mais d'un coup, ils étaient contents de cette découverte-là, sans en même temps comprendre totalement ce qui jouait à l'intérieur de ça. Parce que c'était une époque révolue, d'une certaine manière, pour eux. Les mots sont compliqués, enfin, c'était... D'un côté, il ne comprenait pas, et de l'autre côté, il saisissait quelque chose à l'intérieur de ces films. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, cette chose qu'ils ne connaissent pas, avec laquelle on va travailler, c'est ces films-là, et le contexte politique global à partir de ces films-là. Donc ça ne faisait pas encore un film, mais en tout cas, c'est là, c'est grâce à leur regard sur ces extraits-là que j'ai décidé que ça serait le cœur du film, alors que c'était absolument pas prévu jusqu'à ce moment-là.
Comment est-ce qu'ont été choisis les films ? Pourquoi tel film, tel passage plutôt que tel autre ?
Quand j'ai décidé qu'on allait rejouer des extraits, je leur ai présenté une vingtaine d'extraits, 25 extraits de films de ce corpus-là, hein, fiction, documentaire, évidemment beaucoup plus de documentaires, des films vraiment liés à 68 et des films ouvriéristes qui suivent. On en a discuté, j'aurais demandé de choisir. Parce qu'il faut qu'il y ait du désir quand même pour des extraits. Et choisir dans deux sens, parce que tous ceux qui jouaient avaient, enfin en tout cas 8 d'entre eux, avaient la charge de s'occuper du remake. Un peu comme des réalisateurs. C'est-à-dire qu'il fallait tout organiser, s'occuper des répétitions, vérifier que tout soit raccord à l'identique. Et il y a ceux aussi qui jouaient. Donc on a fait un jeu de noter en fait qui voulait jouer quoi, qui était intéressé par quel extrait. Donc le choix final des extraits leur revient à partir d'un corpus que je leur avais donné, et avec des choses qui moi m'ont surpris dans leur choix. Ça veut dire que ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont, à part la chinoise, évacué tous les films où il y avait des étudiants et des jeunes. Il y en a pas, et il y a eu des choix. Par exemple, moi je trouve que Citroën Nanterre, la discussion autour du retour, est-ce que la CGT va accepter qu'on revienne au travail, etc. Je le trouvais un peu difficile personnellement, mais voilà, je l'avais proposé et c'est ça. Plusieurs d'entre eux l'ont choisi, et donc voilà, à partir du désir de chacun, on a pris les 8 films qui intéressaient le plus des lycéens.
On peut peut-être vous entendre là, vous, puisque c'est vous qui avez fait le choix. Pourquoi est-ce que vous avez retenu tel film et pas tel autre ? Moi, je suis content que vous ayez retenu ce film magnifique qui s'appelle Reprise du travail aux usines Vendère, hein, qui avait donné le film Reprise d'Hervé Leroux, qui est un moment déchirant. Mais voilà, comment est-ce qu'ils vous ont parlé, ce film-là, et d'autres vous parlaient pas ? Peux-tu un moment de concertation pour savoir qui va prendre le micro ?
Ça date d'il y a un an et demi aussi. Hein, et...
C'était quoi la question ? Voilà, pourquoi vous en avez choisi certains, rejeté d'autres, et puis comment vous avez reçu ces films quand vous les avez vus comme ça pour la première fois ?
Ce film, je l'avais travaillé, mais c'était pas celui que j'avais choisi parmi les extraits. Mais quand je l'avais travaillé, j'ai bien aimé... l'émotion que transmettait la femme, en fait, qui justement était en colère et triste à la fois. Et je trouvais que Julie, elle l'a bien interprété, du coup ça rentrait bien avec les intentions de la vidéo, je trouve. Voilà.
Et d'autres, par rapport à des films qui vous parlaient ou pas ? Jackson, qui doit vite partir parce qu'il a un engagement.
Moi, j'ai choisi la scène de la chinoise où ils tiennent un livre rouge, c'est ça. Et c'était il y a un an et demi, du coup, j'ai plus les titres. Mais j'ai choisi la scène de la chinoise et je l'avais vachement aimée parce que. Mais c'est pas celle que j'ai eue en fait. Je l'avais choisie, mais c'est pas celle que j'ai eue. Non, je sais exactement celle que j'ai eue. En fait, celle-là avec la chinoise, c'était. Je sais plus qui l'a eue, mais c'était pas moi. Et quand j'ai eu celle que j'avais choisie, en fait, j'étais encore plus content parce que c'était une scène que j'avais plus aimée, mais qu'il fallait plus de temps pour que je la comprenne. Parce que j'avais rien compris, en fait. La première fois que je l'ai vue, j'ai vraiment rien compris et je me suis dit, c'est juste des personnes qui parlent. Et moi, je comprends même pas les mots qu'ils disent. Et du coup, j'étais vraiment genre perdu dessus et j'ai retravaillé dessus et j'ai compris toute la séquence. Et en fin de compte, c'est celle que je préférais le plus. Voilà. C'était celle où il y avait... c'était la chinoise. Si, c'était la chinoise. Et il y a un plan dans Évry où il tourne la caméra et il y a la voix off. Elle part des ouvriers, voilà, c'est ça.
Juste pour vous expliquer pourquoi certains ont choisi, n'ont pas eu, etc. Ça, on a fait le travail avec Alia. C'est juste que faire une équation avec 10 élèves qui doivent jouer, 8 qui doivent mettre en scène des films, en sachant que chacun devait jouer et mettre en scène dans un temps de tournage, on l'a fait au réel. C'est-à-dire on a fait comment tout ça s'agençait très concrètement. Et du coup, j'ai donné des deuxièmes choix parfois à ceux qui n'ont pas eu leur premier choix d'extrait.
Le film, puisque vous parlez de la chinoise, si je me souviens bien, la chinoise, ça a commencé par un carton, un film en train de se faire. Il donne aussi cette même impression, ce film, parce que vous montrez les conditions de fabrication du film, vous montrez un moment où vous faites reprendre un geste, vous montrez plusieurs versions de la même scène. Vous avez eu cette envie, justement, quand vous avez fait la structure du film au montage, de montrer un film qui était en train de s'inventer sous nos yeux ?
Oui, c'est arrivé au montage, ça. C'est-à-dire de mettre ces extraits, d'un coup, j'étais assez, moi, ému par toutes les chutes, normalement, les actions, les on reprend, etc. Et ce qui permettait de réancrer le travail du cinéma. C'est-à-dire que ça se travaille, ça. Et ça se voit dans le film, le fait que, effectivement, c'est Jackson à la fin que je reprends. Floricia joue très, très bien. Et je fais là le réalisateur. Je dis, on va reprendre. Parce qu'il y a un détail qui ne va pas, il y a un geste qui ne va pas. Et voilà. Et j'aimais bien ramener cette chose qu'on voit. Voilà, pas très souvent, qui est le travail lui-même du cinéma. Et du coup, voilà, avec eux, à chaque fois, je ne sais pas, ça marchait bien, toutes ces actions, ces voix différentes qu'on entend. C'était quelque chose qui m'avait assez ému en regardant les rushs.
J'ai assisté à un débat sur ce film, c'était au Festival de La Rochelle. Je ne sais pas comment va être le débat avec vous ce soir, mais c'était parti un peu de manière véhémente sur un spectateur qui avait très mal vécu toutes ces séquences d'interview que vous faites. Là, c'est encore assez godardien aussi, hein, de poser des questions aux personnages, parce qu'il voyait comme une sorte de façon de ridiculiser une jeunesse ignorante, un peu stupide, qui ne comprend rien à rien, qui est capable de jouer des textes qu'elles ont appris et qu'elle a appris par cœur, mais qui, quand on leur pose des questions sur le sens, sont complètement perdus. Pourquoi est-ce qu'il y a ces séquences d'interviews qui sont en plus longues, où on prend le temps avec les personnages que vous filmez?
Ben, moi, j'avais besoin de mettre ces interviews parce que, quand j'ai fait les interviews avec eux en direct, mais surtout quand je les ai revues à froid, ça m'a posé beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Et une chose très contradictoire entre un côté quelque chose qui serait compliqué, c'est-à-dire toutes les questions du manque de transmission du vocabulaire de la politique, que je trouve effroyable. Ça veut dire qu'on a 17 ans dans l'école censément républicaine, que grosso modo ils n'ont pas eu d'éducation civique. Il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu effroyable, c'est-à-dire que c'est pas de leur faute, hein, surtout pas. Si on ne sait pas répondre au mot syndicat, c'est qu'on ne nous l'a pas appris. Et je trouve ça terrible. Aussi, des fois, des choses. Moi, je me dis, à 17 ans, là, à force de leur parler du chômage, à force de leur passer de tout ce qui ne va pas, on leur coupe les rêves, quoi. Enfin, c'est Gaïs et Martin qui disent oui, le cinéma, c'est compliqué, j'aimerais bien faire, mais c'est compliqué. Non, t'as 17 ans, vas-y, quoi. Si t'as envie de le faire, vas-y. Et cette espèce de chose, je trouvais ça assez terrible, ce qu'on leur inculque et ce qu'on ne leur inculque pas. Et d'un autre côté, je trouvais ça assez fascinant que malgré tout, ils soient assez courageux pour s'exprimer. Ils réfléchissent aux questions, ils donnent des réponses, et qu'on sent que chacun d'entre eux, pour une raison ou une autre, serait prêt, à un moment, à rentrer en résistance, à lutter, à faire la grève, etc. Et qu'ils sont intelligents malgré nous. Malgré le peu qu'on leur a donné. Et quand je voyais ces interviews, ça me posait problème et ça m'émouvait en même temps. Et du coup, c'est ce que j'ai eu envie de faire partager avec des spectateurs. C'est cette expérience de, maintenant on a ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'adultes, quand on les voit.
Vous les avez vécu comment, ces moments d'interview, tout ce temps que vous êtes? Peut-être certains qui n'ont pas encore répondu.
Moi, personnellement, j'étais le premier, en fait, à passer les interviews. Et il m'avait dit de ne pas répéter les questions, ce que je n'ai pas fait, du coup. Non, ce que j'ai fait, du coup, j'ai pas répété les questions. Et il m'a posé plein de questions par rapport à du domaine politique. Enfin, comme vous pouvez voir, je réponds très mal. Et je ne comprends pas du tout ce que je dis. Parce que, en fait, j'en sais rien. Et j'en savais toujours rien, et j'en sais toujours rien. En fait, je me suis juste rendu compte à quel point on ne nous avait pas appris tout ça. Mais je ne me sentais pas visé ou traité d'idiot ou quoi que ce soit. Je me disais plus, ils nous apprenaient quelque chose et on devait soit comprendre ou soit ne, être... réservé sur nous-mêmes. Mais je pense qu'on s'est tous plutôt ouverts et écouté ce qu'ils devaient nous dire. Et je pense qu'on a plutôt bien compris, en fin de compte, ce qui s'est passé.
Moi, quand j'ai vécu ces interviews, donc j'étais au son, j'étais derrière la caméra et j'écoutais les questions qui étaient posées. Et ces interviews m'ont aussi, moi, permis de me poser ces questions, de me demander ce qui se passait et essayer d'y répondre. Et donc, du coup, bah, j'ai créé, grâce à toutes les fois où j'ai entendu ces interviews, de me reposer ces questions et de me construire ma réponse à l'aide de leurs réponses et de mes connaissances. Donc, pour moi, ces interviews n'étaient pas agressives dans le sens où on n'était pas du tout visé dans quelque chose de montrer la déchéance de la jeunesse. Comme ce qui peut être pris. Moi, la première fois que j'ai vu le film, c'est ce que je me suis dit. Enfin, c'est étrange. Et puis ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, non. Moi, ça m'a appris plein de choses. Voilà.
Quelqu'un veut parler ? Non ?
Je peux bien parler, moi.
Eh ben, allez-y, on vous écoute.
Ouais, et puis je crois que j'étais passée aussi après Jackson l'après-midi et j'étais pas du tout au courant qu'on devait faire une interview. Du coup, j'étais un peu perturbée. Ouais. Du coup, quand on m'a dit ouais, on va faire une interview, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais dire ? Et mais en fait, je me suis pas sentie bête quand j'ai répondu aux questions. Je me suis un peu plus énervée envers moi-même parce que je me suis dit j'ai des arguments. Enfin non, justement, j'ai pas d'arguments. J'aimerais avoir des arguments pour justifier mes idées, mais du coup. Ça m'a un peu énervée, mais ouais, c'était assez intéressant comme interview quand même. Des questions qu'on m'avait jamais posées avant.
En même temps, ce que montre votre film, et il y a cette fin qu'il faut aborder, parce qu'évidemment le film serait complètement différent s'il n'y avait pas cette fin, c'est que les mots viennent quand l'action politique vient sur des sujets qui concernent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de montrer des films, c'est peut-être toute la réponse à votre livre « Que peut le cinéma ?» Il ne suffit pas de montrer des films politiques pour politiser, il faut que ça rentre en résonance. Alors comment est-ce que vous avez vécu ce film? Est-ce que vous étiez satisfait du film que vous aviez avant qu'il se passe les événements de décembre dernier qu'on voit à la fin du film ? Est-ce que vous auriez sorti le film tel qu'il était à ce moment-là ?
Oui, il était déjà programmé. Par exemple, il devait déjà être montré à Berlin. L'avait accepté sans la fin. Ça m'allait très bien parce que le film posait déjà beaucoup de questions. Et c'est déjà suffisant pour moi qu'un film pose beaucoup de questions. C'est un peu compliqué à recevoir, mais en tout cas, c'est nécessaire. Moi, je trouve ça nécessaire, en tout cas. Mais c'est sûr que quand la fin arrive en décembre, ça change la couleur du film. C'est-à-dire que le film qui tendait malgré tout à un certain pessimisme, on va dire ça comme ça, avec cette fin, tend à un optimisme. Et ça change radicalement la couleur du film. Et ça pose cette question en plus qui, moi, évidemment, m'intéresse, c'est le rapport entre les mots, le vocabulaire, le cinéma, les discussions autour de la politique et le concret de la lutte. Et du coup, c'est d'une certaine manière aussi la manière qu'offre que m'a offert le réel, hein, et ce qu'ils ont fait de ce réel-là, de revenir à l'idée du cinéma des années 70 et des films Evelkin, etc. Ce cinéma contraire dans la première partie, c'est-à-dire tous ces films dans lesquels on voit beaucoup de travailleurs, des ouvriers qui, une fois qu'ils se mettent en grève, font l'apprentissage de la lutte, commencent à parler et le disent eux-mêmes. Avant, on ne parlait pas politique, avant, on n'avait pas de copains à l'usine. Et maintenant, on a des copains, maintenant, on sait où on est, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on a gagné. On a perdu la lutte la plupart du temps, mais on sait où on est et eux le vivaient en direct, en fait. Et ça aussi, c'était très étonnant que le réel amène ça, cette chose-là, qui finalement, on revient aussi un tout petit peu au cinéma, ou en tout cas à ce qu'apportait un moment ce cinéma-là.
Sauf que les images qui sont rejouées à la fin sont d'une toute autre nature que celles qui sont jouées au début, qui étaient produites par des militants, avec des militants pour des militants. Là, sont des images produites par la police et diffusées par la police.
Ah oui, c'est les images du coup qu'on utilise de Mantes-la-Jolie sont radicalement différentes. C'est d'une violence terrible.
Est-ce qu'il y a déjà des questions de réaction, monsieur, et ensuite monsieur au fond.
Merci.
Merci, et merci d'être devant nous et tout, c'est courageux de votre part. Moi, je pense, je suis un peu plus vieux que vous, mais je suis pas si vieux que ça, quoi. Et les questions que vous leur posez, à leur âge, je pense que j'aurais été aussi démuni. Et au fur et à mesure des luttes de ces 5 dernières années, on se politise grâce aux luttes, et c'est ce que vous dites à la fin du film, et c'est très bien. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le film, c'est justement ça, c'est dans les années 60, il se posait des vraies questions politiques. Il y avait un contexte et une espèce d'effervescence où être marxiste-léniniste et être maoïste avait un sens. C'était pas juste être dans une espèce de chapelle. Et nous, en fait, enfin moi, ce que j'ai l'impression dans notre génération, on est le fruit de cette défaite des années 80 et de ce grand désert qu'on a traversé, et on comprend, enfin, on a l'impression que tout ce qui était avant, enfin, n'a pas existé et on le comprend pas, quoi. Et du coup, je trouvais ça très puissant, en fait, que vous reviviez, que vous rejouiez ces moments des années 60, 68, et tout, etc. Ma question, c'est pourquoi l'avoir appelé nos défaites? Parce que c'est quand même terrible. Si l'enjeu c'est de se réancrer avec ce mouvement ouvrier qui certes a perdu dans les années 80, mais qui est en train de se réveiller depuis 3-4 ans, il n'y a pas eu que des défaites dans le mouvement ouvrier, que je sache. Et du coup, il y a un enjeu aussi de reconnaître les défaites, certes, mais de reconnaître aussi les victoires, de revendiquer nos victoires et de le dire fièrement.
Oui, alors ils sont pas du tout responsables du texte, du titre. Un petit peu Gaïs, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est toujours un peu mystérieux un titre, hein, comment il apparaît en tout cas chez moi. Et c'est quand même dans ce film-là ou dans beaucoup de mes films l'endroit où il y a une assertion, quoi. Il y a une jusqu'à être un peu agressif, comme nos défaites. C'est parce que j'entends défaite un peu comme j'entends constat. C'est-à-dire que dans ce film, ce que moi j'ai vécu en le faisant et en le voyant, il y a quand même un nombre d'échecs assez incalculable. Le fait que pour moi, alors ça c'est personnel, c'est qu'effectivement, moi, mai 68, c'est de l'histoire contemporaine, pour eux, c'est de l'histoire achevée. Et je me dis, c'est-à-dire, on n'a même pas réussi à sauvegarder l'héritage du dernier mouvement où, en France, où c'était pas juste quelques luttes, mais un truc global, sociétal, et c'est définitivement de l'histoire. Ça, c'était une première défaite collective. Hein. Il y avait le fait qu'on voit très clairement dans le film un manque de transmission criant du vocabulaire de la politique et par l'école, les parents, partout. Ça veut dire que si ces mots, ils ne les connaissent pas, c'est que personne ne leur en a jamais parlé. Et pour moi, il y a aussi de l'échec à cet endroit-là. Et même si on pourrait dire qu'il y a un projet néolibéral et que de dépolitisation de la société, etc., je ne renvoie jamais la faute totalement sur l'adversaire. Moi, j'estime qu'on est tous partis aussi des problèmes. Donc là, il y avait aussi un échec. Une société où on arrive à un tel point d'élitement des consciences qu'on peut envoyer des flics, mettre des gamins sur les genoux, qu'on trouve ça normal, ou comme Ségolène Royal dit, qu'au moins ils auront appris quelque chose. Je trouve que c'est une société qui est malade. Faire 36 heures de garde à vue pour un tag Macron démission quand on est mineur, c'est une société qui est malade, et on en est, je suis désolé, moi en tout cas je me sens responsable de ça, par une espèce, tu parlais des années 80, 90, oui, d'une inaction de nos générations, de la génération en tout cas dont j'ai l'âge, de leurs parents, quoi. Donc c'est ça. Mais il y a aussi autre chose dans ce titre-là, c'est que c'est du constat. Ça veut dire qu'à un moment, il y a aussi une espèce de dans l'optimisme des luttes, par exemple, que l'on a gagnées. Oui, on a avancé sur le droit des femmes, sur le droit des homosexuels, etc. Mais il y a aussi un moment où on n'avance pas à pas regarder les échecs. Il faut faire des constats. Et on a besoin de temps en temps de se dire, voilà, en fait, finalement, c'est pas très glorieux malgré tout. Tout ce qu'on a, on peut voir ce qu'on a fait, on peut aussi à un moment se questionner sur tout ce qu'on n'a pas fait. Et les constats, du coup, il y en a besoin. C'est-à-dire, oui, on n'a pas. C'est ce que dit le sous-titre du film. On a perdu des batailles. Et en même temps, ces batailles-là, c'est ce que disait dans la première version du film, qui n'est plus maintenant parce que c'est redit derrière par Swann quand ils font le blocus. Mais que disait Gaïs avant qu'il y ait le blocus, où il disait, il en reste un petit bout quand il dit, faut toujours pas se rebeller, mais faut malgré tout faire la grève. Je ne sais plus à quel moment c'est, parce que faut montrer qu'on est là même si on perd. Et il le développait en fait plus longtemps, et il employait le mot défaite. Et je m'étais dit, si en plus ce mot-là, qui est le mien quand je vois le film, est déjà repris par quelqu'un à l'intérieur du film, d'une certaine manière, cette idée-là, ça veut dire d'une fait que il n'y a pas de victoire définitive, mais il n'y a pas d'échec définitif non plus, et que c'est dans la lutte qu'on apprend, et qu'en fait, on s'en fout du résultat. À un moment, tout ce qu'on a gagné dans la lutte, on ne le perdra jamais. Et il l'exprimait avant même le blocus, Gaïs. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, si c'est même là, quelque part à l'intérieur de cette classe, il y en a un qui est déjà là-dedans, c'est non plus pas tout à fait, plus tout à fait mon titre à moi seul.
Gaïs, puisqu'on parle de vous, là, qu'on ne vous a pas entendu depuis tout à l'heure.
Je dois répondre sur le titre.
Sur cette scène, puisqu'on ne l'a pas vue, qu'elle a été coupée dans le film, mais qui répond à on va gagner, de défaite en défaite, on va finir par gagner, quoi.
Non, je crois que en réalité, c'est le fait que. Enfin, je pense que comme je l'ai vécu au lycée cette année, que quand on lutte malgré nos défaites, on part avec, on en prend un certain bagage de cette lutte. Ça permet de nous construire nous, et c'est justement que c'est comme un match de foot. Hein, des fois on perd, après on gagne, puis c'est vraiment nos premiers combats à nous. Donc c'est pour ça que j'avais ce sentiment-là à ce moment-là, quoi. C'est qu'il faut pas se laisser abattre, quoi. Faut se dire au moins on a lutté, quoi, et jamais se laisser, je dirais, écraser. Et c'était justement pour ça que je pensais que, je pense qu'à ce moment-là, j'ai dit cette phrase-là.
Alors, monsieur, derrière.
Bonsoir. J'avais une question pour les lycéens. Est-ce que cette occasion incroyable d'avoir pu produire un film vous a donné l'envie et le courage, parce qu'apparemment c'est difficile, de faire du cinéma?
Oui, totalement. Bah, la plupart de nous, on est, enfin pas la plupart, mais pour une minorité du groupe, on est tous partis en études de cinéma. Par exemple, nous, avec Alia, on est à Diderot en licence de cinéma, et il y en a avec Swan aussi, et d'autres de la classe, je pense, qui sont en études de cinéma, et ils ont continué, et ça nous a tous un peu motivés à continuer dans cette voie, et bah, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, bon.
C'est ça. Au revoir, Jackson. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, ici.
Oui, alors, j'ai revu récemment dans un ciné-club La Salamandre. Et en fait, au moment où le type nettoie son vélo, il dit négligemment comme ça à sa femme, hier, j'ai rencontré une amie. Hier, j'ai fait l'amour avec une femme que j'ai rencontrée hier, qui s'appelle Zoé, c'était pas Rosemont, etc. Et là, vous dites pas du tout ça. Et je trouve quand même, et alors l'autre, tranquillement, elle entend son mari qui lui dit, ouais, alors hier, j'ai fait l'amour avec une femme que j'ai rencontrée, elle s'appelle Zoé. Puis elle est là, elle sort son bouquin et elle sort les jolies phrases. Alors, moi, j'étais quand même assez interloquée de cette liberté, quoi. Et je me demandais si c'était quand même très juste, même si c'était dans les années, voilà.
Parce que vous l'avez émis, vous avez,
vous l'avez pas gardé, quoi.
Il y a quand même cette idée-là. Il parle de Rosemonde et de Zoé. On comprend qu'ils ont couché ensemble. Mais j'ai dû raccourcir un tout petit peu les scènes parce que j'en ai gardé un petit peu pour le sous-texte de la liberté sexuelle. Mais aussi, d'une certaine manière, ce qui m'intéressait dans cet extrait, c'était le texte de Heine. Et du coup, il fallait que je gagne un petit peu de temps sur le début. Et pour le coup, je me suis dit que m'aventurer. J'ai quand même posé une ou deux questions à Marine sur ça, sur cette partie-là. Je me suis quand même, les interroger là-dessus, c'est là où on fait comme un hors-sujet. J'étais quand même posé une ou deux questions hein, sur les relations entre l'homme et la femme et tout ça, et c'était un peu gênant.
Oui, ouais. C'était pas ouf, hein. J'ai pas très bien répondu. Enfin, Oui, mais en même temps, c'était. Il n'y a pas de réponse juste et de réponse fausse, mais c'était. C'était hardcore.
Monsieur.
Oui, alors bonjour. J'ai beaucoup aimé le film parce que c'est vrai qu'on ne laisse pas beaucoup la parole aux jeunes, surtout en matière de politique. Je l'ai trouvé assez fort. Enfin, vraiment puissant, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dérangé, même si j'ai vraiment apprécié le film. C'est, j'ai l'impression qu'il y a un manque de partialité, en fait. C'est-à-dire que les jeunes, ils n'ont pas forcément de vision de la politique et que là, en fait, c'est quand même assez dans les questions, etc., bah, dans les extraits, mais ce qui est assez normal, vu que c'est du cinéma militant, c'est assez orienté et peut-être même trop, justement, vu qu'ils ne sont pas assez libres et enfin, qu'il y a une sorte, par exemple, de manichéisme. Enfin, les... Je caricature évidemment, mais les gentils ouvriers, les méchants patrons et tout ça, ça m'a un peu dérangé, même si je trouve que le film est très important en soi et est vraiment réussi.
Ouh, j'ai pas vraiment de réponse. Après, il y a l'équivalent de ce cinéma-là, version droite, il n'existe pas. C'est la télévision ou c'est le cinéma commercial. C'était pas tout à fait le sujet. Et puis même dans ce cinéma-là, enfin dans le cinéma. Enfin, dans la télévision, on ne va jamais dire les gentils patrons, les méchants ouvriers. Ça ne se passe pas comme ça. Là, c'est du cinéma. Le cinéma militant, malgré tout, est quand même toujours ancré à gauche. Moi, si je travaille même avec eux, l'endroit où je suis, où je travaille comme cinéaste, mes opinions politiques font partie de mon cinéma. Alors, je ne vais pas commencer à essayer une certaine neutralité. D'ailleurs, je ne les interroge jamais sur leurs opinions à eux, politiques. Je leur demande ce pourquoi ils peuvent lutter. Ils pouvaient avoir les réponses qu'ils voulaient. Ça, là-dessus, c'était pas l'idée. Mais forcément, quand on part de ces extraits-là, que c'est un film avec moi, oui, ça va être de cette couleur-là.
Monsieur, je vous passe mon micro.
Oui, merci. Le film est incroyable. Mais justement, en réaction à ça, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est pas sur le plan de l'opinion de soit des lycéens, soit de la vôtre, c'est que ça met, et c'est ce qui a été évoqué dans les questions précédentes, sur le désert des années 80, c'est des choses que j'ai lues en ce moment, et l'impression qui en ressort, c'est qu'on est sorti d'un plan de la politique où il y avait des idées, et tout l'intérêt des questions qui sont posées, c'est de demander des opinions, demander un argumentaire, c'est de revenir à des définitions de ce que ça pourrait être une réflexion politique et de une réflexion sur le réel. Et c'est beaucoup plus fort parce que c'est pas de l'opinion, ça demande de revenir à une époque où des gens voyaient dans la politique, c'est terrible de dire ça, mais parce que c'est, il y avait 40 ans, mais dans la politique des vraies luttes, et maintenant c'est juste bon. Enfin, bon, oui, ça a été dit, je vais pas. Et voilà. Non, c'est fabuleux.
Merci. En tout cas, moi, ce qui a été vraiment très. Je pourrais avoir une tendance au pessimisme de manière assez naturelle, mais quand je les voyais se dépatouiller avec les questions qui sont effectivement pas faciles, hein, mais c'est. Moi, ils ont 17 ans, je leur parle comme à des adultes. Hein. Je ne suis pas là pour les prendre pour des petits. Hein. Donc, je parle avec les mêmes mots que je parlerais avec des adultes. Et les questions ne sont pas faciles. Mais du coup, je les voyais, effectivement, Julie le disait, etc. Par exemple, ça se voyait que ça les faisait réfléchir. Et ça, je me dis, au moins, on peut nous enlever le vocabulaire. Mais il y a quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas, c'est le désir de, malgré tout, quand c'est inacceptable, de y aller, quoi, ou de réfléchir. Ça, on n'en enlèvera pas, même s'il nous manque les mots. Et du coup, ça m'a rendu, malgré tout, ils m'ont donné pas mal d'énergie.
Monsieur.
Je voulais tout d'abord vous remercier pour ce film et également pour, je pense, l'attitude que vous avez su avoir vis-à-vis de ces jeunes, ne serait-ce que justement au moment des interviews, parce que je pense que peut-être que vous avez su les laisser réfléchir parce que vous aviez une approche ou une attitude en face d'eux. Et justement, c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que peut-être qu'ils n'arrivaient pas forcément à répondre ou à apporter des éléments de réponse aux questions que vous pouviez poser, mais peut-être aussi que c'est parce qu'on ne les écoute pas comme ça. Et je pense que j'aurais sans doute été dans une situation un peu similaire à leur âge, et je trouve que c'est un peu triste finalement de constater que... on laisse pas, ou on n'a jamais laissé, j'en sais rien, mais une parole comme ça, une réflexion est forcée justement à un moment donné à essayer de réfléchir sur des concepts plutôt que de les écouter, que ce soit passivement à l'école, parce que finalement c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, ou par les médias, à la radio, à la télé, où finalement on nous bombarde d'éléments, mais en fait peut-être qu'on ne les redéfinit plus, on ne nous force pas à les redéfinir, on ne nous fait pas en discuter. Et du coup, la question que je voulais poser, c'était est-ce que, aux jeunes qui sont ici, est-ce que ça vous a un petit peu donné envie d'aller vers d'autres choses, des engagements quels qu'ils soient? Je sais que on entendait à un moment donné parler d'engagement politique et de montrer à quel point finalement on devrait tous représenter le peuple, et que finalement c'est pas les députés qui devraient représenter le peuple, mais peut-être chacun d'entre nous, et qu'on a tous notre mot à dire. Est-ce que voilà, ça vous a donné des idées pour la suite?
Bah, moi personnellement, oui. Déjà, quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a dit je vais t'inscrire au truc électoral. Je sais plus comment ça s'appelle. Les listes électorales, merci. Mais j'avais perdu le mot. Et du coup, j'étais d'accord. Enfin, je vais aller voter pour le maire l'année prochaine. Et voilà, c'est déjà mon début.
Moi, je pense que vous avez pu voir aussi une évolution par rapport aux séquences, la dernière séquence qu'on a faite, où c'était un an après. Et je pense que à travers l'interview qu'on a eue et de ce qu'on avait fait, ça nous a permis aussi de prendre plus parti pour ce qui s'était passé dans notre lycée. Je pense que franchement, un an auparavant, il y aurait eu ça, je serais restée chez moi. Pas de cours, tranquille, mais après, après tous les interviews, ça nous a permis de réfléchir autrement et de se dire que ça se faisait vraiment pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus investis dans ça et d'autres non. On a pu le remarquer aussi dans les interviews. Mais du coup, ça nous a donné un peu plus envie de nous apporter des connaissances et voilà.
En soi, moi je suis allée voter pour le coup pour les européennes, et du coup ça a permis à ce que j'en discute avec mes camarades, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Genre discuter de politique, j'ai fait « Oh, génial, un nouveau sujet, ouais !» Mais je ne savais pas quoi dire, et du coup quand je suis arrivée aux européennes, je ne savais pas pourquoi voter. Et je suis allée poser des questions, du coup ça m'a permis de m'intéresser et à savoir pour qui j'allais voter et savoir vers quoi je voulais m'orienter après. Genre, je sais pas.
La politique, y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font. Du coup, moi, je vais pas parler d'élections européennes, mais ouais, c'est vrai qu'après le film de Jean-Gabriel Perriot, pour moi, cette année-là, tout s'est accéléré, comme on a pu le voir au lycée. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Romain Rolland, où on a organisé notre lutte avec des professeurs et des parents et des élèves. Et c'est vrai que c'était ma meilleure année, à l'école. Et c'était aussi très dur parce que, en fait, moi, le jour où ça m'a mis un vrai coup sur la tête, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ensuite, c'est quand, à 6 heures du matin, je me suis fait menotter devant mes parents. Et qu'on a littéralement retourné ma chambre, quoi. Et c'est après, j'avais jamais fait de garde à vue, tout ça. À ce moment-là, se dire ouais, juste pour des idées politiques, en arriver là, à 17 ans, ça m'a posé un questionnement où est-ce que je me situais, qu'est-ce que je voulais faire. Je sais que j'ai d'autres copains qui ont vécu ça avec qui j'étais, ça les a complètement dégoûtés. Justement, d'avoir ce traitement-là. Mais c'est vrai que pour la suite, tout s'est accéléré, car justement, quand on a créé le collectif avec des copains, et des parents et des professeurs, on a eu la présence de Assa Traoré du collectif Adama, de Fatima Wassak de Front de Mer, avec qui on a pu faire des événements, notamment à la Bourse du Travail, où on avait des questions, par exemple, comment résister à l'autoritarisme. C'était des choses qu'avec mes potes, on s'était jamais posé comme question. Et c'était vraiment un travail, quoi. On n'allait pas comme ça les mains dans les poches. On préparait une semaine avant. on allait parler devant 100 personnes. Donc c'était un vrai travail intellectuel et c'est vrai que cette année tout s'est accéléré pour moi et pour les prochaines municipales où en fait je pense que c'est à tout citoyen de s'impliquer mais pas forcément dans des partis politiques. C'est pour ça que là on est en train de créer il y a quelque chose qui existe déjà à Ivry qui s'appelle Convergence citoyenne ivrienne qu'on essaie de redynamiser justement avec des copains des quartiers populaires pour que nous aussi on puisse s'approprier cette parole politique, reprendre le micro et ne pas forcément investir des partis politiques mais juste dire voilà coucou on est là et on veut prendre la parole. Voilà. Merci.
Quelqu'un d'autre veut. Il y a monsieur.
Non, mais à vrai dire, ma question, il y a déjà eu beaucoup de réponses qui ont été données là, dans l'intervention précédente. Non, moi, c'est juste une remarque, c'est par rapport à la qualité du film. Je la vois surtout dans avoir réussi à capter la fragilité de la parole des élèves. Et puis, je me posais la question, et donc je vous la pose en même temps. Est-ce que vous n'avez pas projeté un petit peu beaucoup votre pessimisme avant d'arriver dans cet établissement ? Est-ce que vous n'êtes pas posé non plus la question que, en 50 ans, il y avait quand même quelque chose qui était radicalement différent, et notamment que ces jeunes, ils font du cinéma maintenant, justement. Ils font du cinéma et que peut-être la bataille, elle est autour de cette démarche-là aussi. Voilà.
Je saurais pas trop quoi répondre sur la question du cinéma et de leur rapport à l'image et comment ça va jouer. Enfin, je sais que ça joue parce que je reçois, autour des Gilets jaunes par exemple, on m'a envoyé beaucoup de films, pas beaucoup, mais en tout cas des films militants tournés par des très jeunes réalisateurs qui ont fait des courts-métrages, des films d'agit-prop autour de ces mouvements qui étaient d'une qualité hyper étonnante et politiquement et cinématographiquement ce que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc ça m'a rendu un peu optimiste. Mais après, je ne suis pas arrivé au lycée. Si j'ai accepté d'aller passer 6 mois avec eux, c'est pas en me disant, oh là là, j'ai envie de voir comment la jeunesse elle est aujourd'hui. Peut-être une des choses qui me sauve vis-à-vis dans ma pratique du cinéma. Même, c'est le fait de quand même un peu arpenter les lycées de France et les collèges avec mes films depuis très longtemps. J'ai fait un peu des fois des best-sellers de l'éducation nationale. Et du coup, je vais assez souvent dans les lycées, je parle et on débat avec les lycéens. Je parle plus des lycéens parce qu'avec les collégiens, c'est un rapport un peu plus scolaire, on va dire, mais avec les lycéens. Et à chaque fois, c'est quelque chose mais qui me booste. Mais alors, je me dis, waouh, putain, j'ai peut-être fait 4 heures de TER avec des gens qui téléphonaient autour. Mais je sais pourquoi je fais ce métier-là, je sais pourquoi je le fais. Et je pense que si j'avais pas ce rapport, l'air de rien, assez quotidien, enfin quotidien, régulier, avec des lycéens, je pense que pour le coup, je serais dans un état de dépression intense. Et c'est eux qui me sauvent à chaque fois. Et du coup, j'ai accepté d'aller passer 6 mois parce que c'était des lycéens. Vraiment, enfin, c'est. Ils me donnent toujours plus d'espoir que les adultes, tout le temps.
Pour en rajouter, quand Jean-Gabriel il est venu, il nous a montré quelques œuvres à lui. Mais quand il nous a proposé le projet, il nous a pas du tout donné son point de vue. Enfin, il nous a pas montré son avis qui est négatif. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Enfin, non, mais pas vraiment. Mais vous avez compris. Et du coup, il nous a pas du tout. Enfin, il nous a laissé. Un libre champ, enfin, il nous a pas dû, enfin, on s'est fait notre propre opinion, et c'est qu'après qu'il nous a donné à peu près son avis, mais sinon, non, pas du tout. De ouf.
Non, Oui, alors, juste sur ce point, moi je pense que, effectivement, quelqu'un de gauche comme de droite aurait pu poser les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? Qu'est-ce que c'est le syndicalisme? Qu'est-ce que c'est l'anarchie? Enfin, c'est quand même d'une neutralité qui me paraît. Voilà, bon, après. Il me semble pas que tu les engages à. Effectivement, ils cherchent leur réponse. Ensuite, sur le pessimisme, je pense qu'on peut en parler, parce que quand même, pour revenir sur ce qui se passe à la fin, on parle quand même de 6 jeunes qui sont mis en garde à vue pour un tag, qui est donc fait à l'extérieur du lycée.
C'est pas précisé dans le film, mais le tag en question, c'est Macron démission. Alors, est-ce que pour un tag comme celui-là, un môme, il doit faire de la garde à vue. Alors, où est la démission dans ce cas-là? Moi, je cherche encore. Et puis, pour revenir à ce que disait Gaïs, qui parle ensuite de... J'en perds mes créoles. oui, parce que je ne sais pas si c'était très clair, mais j'ai donc appris, moi, par hasard, sur Facebook, quelques mois après, que la proviseure avait porté plainte de nouveau pour un tag, cette fois fait à l'intérieur du lycée, qui, si j'ai bien compris, est un tag de solidarité pour les jeunes gens mis en garde à vue en décembre, qui en gros demandait le retrait de la plainte, c'est ça? Et ce pourquoi, à 6h ou 5h du matin, je ne sais plus, 32 policiers ont débarqué dans 6 familles, c'est ça? 32 policiers dans 6 familles armées jusqu'aux dents à 6h du matin. On va réveiller des mômes parce qu'ils ont voulu être solidaires, juste, de d'autres mômes qui ont été mis en garde à vue au mois de décembre pour un tag. Enfin, voilà. Et je ne sais plus qui d'entre vous dit... je crois que c'est toi, quelques heures de colle, on aurait compris, éventuellement. Et encore, je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas été collé. Et pour moi, ça me paraît vraiment grave qu'on accepte, que ce soit Mantes-la-Jolie ou Ségolène Royal, d'ailleurs, avait même dit plus que ça, elle avait dit « ça leur fera un souvenir ». On a évité encore quelqu'un. Et je ne comprends pas comment. Enfin, ce silence et puis la résignation, qu'il n'y ait pas de. Enfin, qu'il y ait même une bénédiction en fait de ce genre de répression, là judiciaire. Enfin bon, voilà. Et je voudrais prendre des nouvelles des jeunes gens qui ont été. Arrêter avec toi plus tard, et puis ceux du mois de décembre, est-ce que tu peux nous dire où ils en sont, quelles sont les poursuites, les suites, enfin voilà, merci.
Alors pour ceux du mois de, le premier tag Macron démission, pour l'instant on n'a toujours pas de nouvelles, la justice, pour les 6 autres dont moi je faisais partie, moi j'ai été relâché Je vais passer parce qu'il y a des trucs que, ouais, voilà. Pour les autres, il y a un majeur qui se fait juger le 25. Et les mineurs, ils ont eu un entrevue avec une juge, mais qui a dit qu'il y avait une suite. Pour l'instant, ils ont toujours pas reçu de convocation. Ça, c'était en mai pour les mineurs de la deuxième fois. Et le majeur, il est poursuivi. Lui, c'est un vrai jugement le 25 novembre ou le 27, je sais plus. Novembre. Et justement, il est poursuivi pour dégradation de biens publics, menace sur une personne, je sais plus quoi, dépositaire de l'État, l'obligeant à retirer sa plainte, et le fait d'être entré dans le lycée sans être autorisé, et... Le fait d'avoir emmené des mineurs avec lui, donc ça fait 4 chefs. Est à l'intérieur. Ouais.
Madame.
Oui, moi, je voudrais revenir juste un peu au film. J'ai pas compris si vous aviez participé au montage.
Non, ils n'ont pas participé au montage pour plusieurs raisons. Déjà, on a tourné donc la première, ce qui fait le premier corps du film, en juin. Donc c'était la fin de l'année scolaire. Oui, c'était sur la jointure mai-juin. Donc ils avaient les profs de français et tout ça. Et moi, j'ai monté pendant l'été. Et je leur ai présenté la première version du film en septembre. Et aussi pour des questions très simples, qu'on ne peut pas avoir 16 lycéens avec soi dans une salle de montage. Surtout pour moi qui suis un monteur un peu du silence, quoi. Je suis un peu un monteur... c'est pas un endroit de partage pour moi le montage, mais par contre la première version pour moi c'était très important qu'ils la voient parce que justement j'avais un peu des questions sur l'image qu'ils donnaient d'eux-mêmes et je voulais leur accord sur ce film. Donc ils ont vu le premier montage, j'ai fait des changements pour Ala qui m'en a demandé, qui est la jeune fille qui commence et qui finit le film jusqu'au moment où elle était satisfaite du film et voilà.
Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est éventuellement s'ils avaient mesuré la différence entre le tournage et puis le résultat final, enfin, qu'il y a effectivement des successions qui font apparaître oui, des choses.
Je vais les laisser répondre, mais en fait, j'avais l'idée plutôt de faire un court-métrage quand je suis rentré au lycée et qu'on a tourné. Et aussi, en fait, la vérité que je n'aurais pas dit, c'est que je ne savais même pas s'il y aurait un film. Parce que c'est une recherche, enfin moi c'est un atelier, j'essaye des choses, est-ce que ça va donner, enfin j'ai fait un film avec eux comme je le fais pour moi-même, enfin il y a des films que j'ai commencé que j'ai pas fini par exemple, et d'une certaine manière notre travail c'était de collecter des matériaux et un film pouvait possiblement arriver au montage, donc ils l'ont effectivement totalement découvert, mais ils n'avaient aucune base de ce que ça pouvait être, en fait. On n'a jamais discuté, je ne savais même pas moi-même ce que ça pouvait être. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est le fait que ça soit un projet de court-métrage devienne un long-métrage. Mais après, je laisse s'exprimer sur ce qu'ils ont vu.
Nous, quand on est arrivé devant dans notre salle de cours et que Jean-Gabriel nous a présenté ce projet monté, c'est vrai que ça nous a fait... Moi, en tout cas, pour ma part, ça m'a fait vachement bizarre de voir toutes ces têtes de camarades sur un film aussi long. Et c'était vraiment inattendu. Je m'attendais absolument pas à ce que le film puisse... qu'il y ait autant de choses à dire par rapport à tout ce qu'on avait tourné et autant de choses à garder.
Moi, personnellement, je déteste m'entendre parler et me voir. C'est vraiment très frustrant, quoi. Bah, la première fois, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans le rythme. Des fois, moi, j'ai l'impression que quand je le revois, j'ai l'impression que je parle trop vite parce que j'ai peur d'oublier de dire des choses alors que, justement, je devrais me poser. Mais c'est vrai qu'avec le montage... Mais il y avait aussi cette espèce d'excitation de voir ce que Jean-Gabriel avait retenu ou pas. Puis on savait rien aussi des interviews qui avaient été posées à nos camarades, parce qu'au moment des interviews, enfin c'était un peu secret quoi. On se mettait dans un coin, Jean-Gabriel il faisait ses interviews, après les autres ils revenaient. Du coup on savait pas les questions, et elles étaient assez différentes, et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y avait un certain rythme quand même, le fait d'enchaîner toutes ces interviews. Et c'est aussi le choix de montage que tu as fait, parce que tu aurais pu faire un choix tout à fait différent, d'alterner comme ça. Voilà.
Vous vouliez vous avez repris le micro.
Oui, hier il y a un cinéma qui est occupé, enfin depuis 3-4 jours. Donc je profite du micro pour pouvoir le dire. C'est La Clé. Il faut que vous y alliez. C'est dans le 5e. Il se passe plein de trucs. Et hier il y avait un film, L'Époque, qui ressemble pas vraiment, mais qui a aussi prétention à faire constat d'une génération et de ses insuffisances, mais aussi de ses désirs, quoi. Et bon, j'aurais voulu avoir votre avis. Et la deuxième chose que je voulais poser comme question, c'est comment s'est opérée la division du travail. Enfin, comment vous avez fait en fait pour et ça n'a pas vraiment tourné. Voilà. Et voilà. Et bon, je me permets le dernier mot. Enfin, je trouve que le problème des films en ce moment, c'est d'arriver à des films politiques qui traitent de politique, c'est de sortir d'une espèce de réalisme capitalisme qui dirait que ben on ne peut rien faire, il y a rien à faire, c'est absolument et enfin je reviens sur ma première question, mais c'est encore, je trouve gênant le titre, et je trouve d'autant plus gênant en fait le sous-titre. On n'est jamais fait de ces victoires, enfin voilà, je vous sortir de ce
Alors je n'ai pas vu le film de Mathieu Barrère encore, je dirais. J'ai pas le temps de voir assez de films malheureusement, et je l'avais loupé quand il était sorti en salle, et voilà. Je lui demanderai un lien un jour pour le voir, mais j'imagine, enfin je connais Mathieu, donc on avait parlé du film au tout début de son projet de travail, d'errance dans les nuits parisiennes et de la jeunesse, etc. Et je pense que dans ses présupposés, il y avait quelque chose effectivement qu'on retrouve. Donc j'ai pas vu le film fini, mais en tout cas. Bon, lui, il est tombé sur autre chose, hein, pour ceux qui ont vu L'Époque, mais je pense qu'il y avait un endroit d'interrogation que peut-être qu'on partageait. Enfin, qu'on partageait pas, parce que moi, j'avais pas encore fait nos défaites, mais en tout cas, faut aller à La Clé voir ce film s'il y passe encore ou les autres. Voilà, c'est un cinéma qui ne doit pas disparaître. Votre deuxième question était sur la répartition. En fait, ils étaient 16. Dans les postes, il fallait donc ceux qui jouaient, une dizaine, 8 qui prenaient en charge comme des réalisateurs les séquences. Et j'avais réservé 6 postes à la technique, 2 au son, 2 à l'image, 2 en assistant réalisateur, pour à la fois que ceux qui ne voulaient pas apparaître à l'image puissent avoir une porte, une proposition, et aussi pour ceux qui voudraient découvrir quelque chose, quoi. C'est quoi le son, c'est quoi l'image, c'est quoi. Ils étaient accompagnés à l'image et au son par des professionnels qui les guidaient, en fait, dans le travail, donc ça pouvait les intéresser. Voilà, grosso modo, je pense, pour l'organisation. Et après, c'est des visions, c'est des endroits où on se place, sur lesquels je pourrais les reprendre, où il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Moi, je pense que le combat, c'est ce qu'il y a de plus important. Je pourrais reprendre Alain Brossat, que j'aime beaucoup, le philosophe avec qui j'ai écrit, et notamment parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelait La résistance infinie, qui est une espèce de moi de livre de chevet quand vraiment ça va mal. Donc, et quand je peux pas aller dans le voir des lycéens et que j'en ai pas vu depuis longtemps, j'ai besoin d'un shoot. Et je lis La résistance infinie, et dans lequel il dit que, de toute façon, l'important n'est pas que l'on gagne ou que l'on perde, l'important pour rester humain, c'est de continuer à lutter. Et après, il développe en disant que, de toute façon, chaque victoire est impermanente. Et que du coup, les sous-titres, nous sommes faits du bois. Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est tourné, mais le combat est pour moi plus important. Et tant pis si on perd. De toute façon, combien de fois on a gagné pour de vrai? Combien de fois on a gagné dans l'histoire? Je parle de nous quand je dis le peuple de gauche ou le peuple tout court d'ailleurs. Combien de fois on a gagné? C'est tout petit par rapport au nombre de luttes que l'on a menées. Et si on prend ces dernières années, le CPE a été gagné. Possiblement la retraite va être gagnée, parce que là, il y a quand même à peu près tout le monde dessus, mais il y a eu combien de combats gagnés? Il y a des petites choses, mais honnêtement, enfin pour moi, et c'est pas un jugement, hein, je veux pas me fixer sur les victoires parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Mais je me fixe pas non plus sur les défaites, hein, mais j'ai besoin à un moment de me dire, pour moi-même, j'ai besoin de me dire, oui, je fais partie du problème, je sais que je fais partie du problème, mon mode de vie ne correspond pas à mes idées politiques. Et je pense qu'on est tous empêtrés là-dedans, pour le coup. Et donc, je ne veux pas être glorieux, ou je ne veux pas être non plus... Enfin, me dire, ah oui, je suis résistant parce que je suis allé manifester, que j'ai fait 3 trucs. Ou au contraire, je ne vais pas me dire en permanence, ah oui, c'est la faute des ennemis, quoi. C'est la faute de Macron, c'est la faute du néolibéralisme, des Américains, de ce qu'on veut. Non, moi, je suis un peu... je suis un peu Ulrike Meinhof. Je me sens responsable du monde, si on voudrait le dire comme ça.
On va prendre une dernière question ou réaction, monsieur.
Je voudrais savoir la place qu'a eu le cinéma militant dans votre vie, et si vous, en tant qu'élève, ça vous a donné aussi envie de faire du cinéma militant vous-même.
Moi, je fais du cinéma du coup à Diderot, et finalement, c'est pas que ça m'a pas donné envie de faire du cinéma militant, c'est juste que je sais pas, c'est pas dans mes envies actuelles. Enfin, je sais ce que je veux faire et ce que je veux pas faire, et c'est pas quelque chose que je veux pas faire, c'est juste que je me sens pas assez légitime de le faire. Du coup, je vois pas en quoi j'aurais ma place à en faire, en fait.
Moi, personnellement, actuellement, je fais du droit. Mais je pense que ce que j'avais dit à Jean-Gabriel, c'est que pour moi, en fait, le cinéma, c'est une arme, quoi. Enfin... c'est un truc qu'il faut s'approprier. Et je pense que je te l'ai jamais dit, Jean-Gabriel, mais une fois, on avait vu un de tes films. Et rien que le fait d'être allé filmer en prison, et le truc du concert, là, si j'étais rentré chez moi, et ça m'avait vachement touché, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais... C'est une vraie arme, en fait, le cinéma, et c'est un truc qu'il faut vraiment s'approprier. Bon, après, faut aussi aller voir des blockbusters, mais c'est vrai que ça permet aussi de se poser des questionnements, et on a quand même une chance dans le cinéma français, contrairement au cinéma américain, d'avoir des films d'auteur et des films comme ce que fait Jean-Gabriel, et que je pense notamment à des films, je sais pas si certains d'entre vous ont vu Welcome, sur le film qui traverse du sans-papier qui traverse la Manche. Ça, c'est des films que j'avais vus quand j'avais 12-13 ans et c'est mes vraies premières claques, quoi. Donc je pense pour moi que avant tout, le cinéma, il est militant avant d'être autre chose. Voilà. Non, en fait, le droit, je me dis toujours que c'est un bagage en fait pour moi justement, parce que comme on voit actuellement, face aux personnes qu'on a face à nous, c'est leur meilleure arme. Et si on maîtrise mieux que cette arme-là, pour moi, c'est ma conviction qu'on pourra les combattre. Mais c'est un... les deux, ça.
Non, tant que c'est pas dans le micro, ça n'existe pas. Tout ce que tu dis. Désolé, mais je dois rappeler la règle du jeu.
Moi, ouais, donc je fais aussi des études de cinéma à Sancy et mon objectif, je crois que grâce à ce film, je me suis rendu compte de l'importance du cinéma dans la politique. Pas au point de me dire que je vais faire un jour des films militants, mais que sans ce cinéma politique, sans ce cinéma militant, il y aurait plein de choses qui pourraient nous échapper et qu'on a besoin de la vie des autres pour se forger le sien. Ce cinéma-là, c'est important d'aller le voir. Moi, je me sens pas capable de le faire pour le moment. J'ai 18 ans.
Aujourd'hui, on peut le dire.
Ok, d'accord. je peux pas prétendre pouvoir faire ce type de cinéma, mais je peux me dire que grâce au film des autres, je crée moi mon propre opinion et ma propre façon de faire du cinéma et de le comprendre.
Merci beaucoup à tous.
Merci à vous.
Je vous rappelle que ce film va sortir en salle mercredi prochain. Donc faites-le savoir autour de vous, c'est important, surtout le premier jour. Que le livre de Jean-Gabriel Perriot, ses entretiens avec Alain Brossa, Ce que peut le cinéma, vous pouvez le trouver ici même en bas à la caisse si vous voulez. Et il vous mettra même un petit mot dessus si vous êtes gentil avec lui. Et puis vous dire enfin que la plupart des films qui ont servi de base de travail pour ce film-là, Nos défaites, existent en DVD. Ils sont aux éditions Montparnasse, ils sont au Mutin de Tanger. Ils sont passionnants à voir et je vous engage aussi à vous plonger dedans. Enfin, j'espère que ce film vous aura aussi donné envie de ça. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, ils sont projetés au Reflet Médicis la semaine prochaine, je le précise, pour le micro. Merci et bonne soirée.